Un jour, j'ai lu qu'en se forçant à sourire, on peut égayer son humeur et que l'inverse est également vrai. C'est sûr que si je rumine des pensées pessimistes, si je broie du noir, je ne vais ni être joyeux, ni en avoir l'air. Les prophètes de l'Éternel, qui avaient la charge d'avertir les Israélites de la venue du jugement de Dieu, ne devaient pas être à la fête non plus. Non seulement ils annonçaient des malheurs, mais dans leur vision prophétique, ils pouvaient voir se dérouler devant leurs yeux la destruction de leur peuple et de leur patrie. Il y avait vraiment de quoi devenir neurasthénique. Après avoir, au nom de l'Éternel, proféré des menaces contre Juda et terminé par l'annonce de la fin politique du royaume, Michée sombre dans la déprime et commence le dernier chapitre de son livre par « Hélas, malheur à moi !» Mais on le comprend. Ce chapitre se compose de 3 strophes. Dans la première, le prophète se plaint de l'étendue des péchés de Juda et reconnaît la nécessité du châtiment divin. Dans la deuxième, il remonte la pente et dit toute sa confiance en l'Éternel. À travers Michée, Israël, fidèle, exprime sa foi dans le salut divin car il possède l'assurance qu'après avoir été frappé de la verge, Dieu le relèvera et lui fera justice contre ses ennemis. Dans la troisième strophe, au nom du peuple, Michée fait monter une humble prière à Dieu pour lui demander de le rétablir comme il était autrefois. L'Éternel répond alors par la promesse de renouveler envers lui les miracles des premiers temps et d'humilier ses ennemis, ce qui élève l'esprit de Michée qui éclate en un hymne d'adoration et de reconnaissance au Dieu de l'Alliance. Le « Hélas, malheur à moi » du début du chapitre est devenu « Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Oui, tu témoigneras de la fidélité au peuple de Jacob. Tu manifesteras ta grâce aux enfants d'Abraham. » Je commence maintenant à lire le chapitre 7 du livre de Michée. « Hélas, malheur à moi, parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher des fruits en plein été, à celui qui grappille après les vendangeurs. Mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger et pas une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. » Verset 1. En Palestine, on ne récolte rien en été car la moisson a déjà eu lieu à la Pentecôte. Par ce langage imagé, le prophète exprime une forte attente amèrement déçue. Il n'y a eu aucune de ces figues précoces si délicieuses et il n'y a pas de raisin non plus après les vendanges. Michée n'a donc rien à se mettre sous la dent. D'autres versions traduisent par « j'ai été comme celui qui ramasse de la paille pendant la moisson ». Michée a cherché quelques bonnes actions parmi le peuple de Dieu, mais en vain. Le prophète Osée, qui a exercé son ministère dans le royaume du Nord, utilise la même image que Michée pour exprimer le contraste entre ce qu'Israël était et ce qu'il est devenu. Il dit « J'ai trouvé Israël comme un plant de raisin au milieu du désert, et j'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits sur un jeune figuier. Mais eux, lorsqu'ils sont arrivés à Baal-Péor, ils se sont consacrés à cette idole infâme, et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur adoration. » L'idolâtrie a été l'élément destructeur du peuple élu dès le début de son histoire, et avec le temps, la situation religieuse des deux royaumes israélites n'a fait qu'empirer davantage tant sur le plan cultuel que social. Un jour, de très bonne heure le matin, alors que Jésus se rendait à Jérusalem, il eut faim. Le texte dit qu'il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » À l'instant même, le figuier devint tout sec. Comme dans les Écritures, le figuier est une image d'Israël, la malédiction prononcée s'applique en réalité à Israël et s'est soldé par la destruction totale de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Je continue le texte de Michée. Non, il ne reste plus dans le pays d'hommes fidèles à l'Éternel, plus personne n'est droit. Tous guettent l'occasion de répandre le sang et chacun traque son prochain en lui tendant un piège. Verset 2. La figue de premier choix et la grappe de raisin succulente que Michée a vainement cherchée représentent ceux qui sont justes et pieux. Le mot hébreu pour « homme fidèle » signifie le miséricordieux, celui qui aime son prochain. C'est ce que la loi demandait au peuple de Dieu. Je lis un passage. « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais ce genre de personne avait pratiquement disparu. Déjà de son temps, le roi David écrivait « Au secours, ô Éternel, il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas, ils sont corrompus, leurs actions sont dégradantes et aucun ne fait le bien. Du ciel, l'Éternel observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Ils se sont tous égarés, tous sont corrompus, plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. » L'expression de Michée « chacun traque son prochain en lui tendant un piège » correspond à une véritable chasse à l'homme, car littéralement le texte dit « il traque chacun son frère au filet », ce qui était la manière habituelle d'attraper les oiseaux. Que ce soit par la violence ou par la ruse, chacun essaye de dépouiller l'autre. Je continue le texte de Michée. Leurs deux mains sont très occupées à faire le mal et à bien le faire. Le prince a des exigences, le juge agit par intérêt, le riche manifeste lui aussi son avidité et ils font ainsi cause commune. Verset 3. Le seul comportement où les classes dirigeantes sont compétentes est de s'accorder entre elles pour faire le mal. Pour un pot de vin, elles sont prêtes à tout. Ésaïe, contemporain de Michée, écrit « Tes chefs sont des rebelles, complices de voleurs, ils aiment tous les pots de vin et sont avides de présents. Ils ne défendent pas les droits de l'orphelin, la cause de la veuve jamais ne leur parvient. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à vous qui vous prenez pour sage et vous croyez intelligent. Malheur à vous qui êtes des héros quand il s'agit de boire et des champions pour vous gorger d'alcool, qui pour un pot de vin acquittez le coupable et qui privez le juste du droit qui lui est dû. » Le prophète Sophonie lui fait écho quand il dit « Ces grands au milieu d'elles sont des lions rugissants, ces juges sont des loups du soir qui au matin n'ont plus rien à ronger. » Les classes dirigeantes n'essayent même pas de cacher le mal qu'elles ont prémédité. Le prince, le juge et le riche s'entendent pour préparer leur coup et ils accordent leur violon de manière à donner le change et paraître juste aux yeux du peuple. Dans la sombre affaire de la vigne de Naboth, que j'ai déjà eu l'occasion de décrire, le prince était le couple royal Achab et Jézabel, qui ont réclamé la condamnation à mort d'un innocent pour s'emparer de sa vigne. Les magistrats de la ville de Naboth se sont prêtés à cette fourberie meurtrière pour un prix. Ils ont soudoyé des faux témoins et le tour était joué. Beaucoup se sont salis les mains dans cette affaire sordide. La corruption par l'argent a toujours existé et existera toujours. Dans les pays démocratiques, nous vivons dans des états de droit où la raison du plus fort n'est pas automatiquement la meilleure. Mais peut-être avez-vous déjà fait la très désagréable expérience d'avoir maille à partir avec un plus grand que vous. Ça m'est arrivé et j'ai perdu ma cause, pourtant juste, parce que j'étais petit. Comme l'a si bien dit Sébastien Chamfort, il y a deux choses auxquelles il faut se faire, sous peine de trouver la vie insupportable, ce sont les injures du temps et les injustices des hommes. En effet, tôt ou tard, chacun d'entre nous subira les deux. Je continue le texte de Michée. Le meilleur parmi eux ne vaut pas mieux qu'un tas de ronces, et le plus droit est pire qu'un buisson d'épineux. Le voici qui est arrivé, le jour annoncé par tes sentinelles, le jour où l'Éternel va intervenir contre toi, et maintenant ils seront consternés. Verset 4. Les mots « buisson » et « consterné » font assonance en hébreu. Les sentinelles sont les prophètes de l'Éternel qui plongent leur regard dans l'avenir et qui depuis longtemps déjà ont vu poindre le jugement. Ils sonnent l'alarme, mais personne n'écoute. D'après Michée, les classes dirigeantes sont aussi nocives qu'un buisson d'épines, lequel ne peut que blesser et nuire. Je sais par expérience que quand on se fait happer par des ronces, on y laisse des plumes. Ces sales épines vous tiennent bon et ne vous libèrent que contre une bonne égratignure. La perversité sans frein des classes dirigeantes ne pouvait qu'attirer le châtiment de l'Éternel. Entrevoyant la catastrophe, Michée interrompt sa description du mal qui remplit Jérusalem pour annoncer ce jugement qu'avec ses yeux de prophète, il voit se réaliser devant lui. Comme il se savait le peuple de Dieu, les habitants de Juda et de Jérusalem ne croyaient pas qu'ils seraient jugés. Mais le jour où une nation ennemie envahira leur territoire, ils seront consternés. C'est effectivement ce qui est arrivé avec les Assyriens, puis plus tard avec les Babyloniens. La confusion qu'éprouveront les Israélites devant ces catastrophes nationales se répétera pour les habitants du monde à la fin des 7 années de tribulation, juste avant que le Seigneur ne revienne pour établir son royaume 2000 ans sur terre. Quand il était présent parmi nous, Jésus a mis en garde sa génération à ce sujet, disant « Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. » Je continue le texte de Michée. « Ne vous fiez pas au prochain. N'ayez point confiance en l'ami. Devant celle qui partage ta couche, garde-toi d'ouvrir la bouche. Car le fils méprise son père, la fille se révolte contre sa propre mère, comme la belle-fille contre sa belle-mère, et chacun a pour ennemi les gens de sa famille. » Versets 5 et 6. Michée avertit la population de Jérusalem de la profondeur et de l'étendue de la corruption morale qui avait atteint des proportions stupéfiantes. Elle touchait tous les niveaux des relations sociales, depuis les accointances les plus banales, comme avec le voisin de palier, jusqu'à l'ami de longue date et même son conjoint, en passant par le serviteur ou la gouvernante. Les attachements humains les plus sacrés, qu'ils soient entre amis ou personnes d'une même famille, ne comptaient plus car l'affection et le respect mutuel avaient disparu, ce qui fait que chacun devait se méfier de tout le monde. Bien que Michée ait prophétisé au 8e siècle avant Jésus-Christ, sa description concorde bien avec la situation qui a régné dans les pays communistes ou fascistes, sous Mao Tse-tung, Staline, Hitler, puis dans les pays sous domination soviétique, comme en Allemagne de l'Est, jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin. David aussi a fait la triste expérience d'être trahi par Ahitophel, qui était pourtant son conseiller et son ami, mais qui décida de se joindre au coup d'État organisé par Absalom. Le grand roi David a dû s'enfuir de Jérusalem en courant comme un malpropre pour sauver sa vie. Intérieurement meurtri par la double trahison de son propre fils et de son meilleur ami, Il a exprimé la profonde souffrance que lui a occasionné cet événement dans un psaume où il écrit « Si c'était l'ennemi qui venait m'insulter, je le supporterais. Si celui qui me hait s'élevait contre moi, je pourrais me cacher de lui. Mais c'est toi, toi qui es un homme de mon rang, toi mon ami et mon intime avec qui j'échangeais des confidences quand nous allions ensemble avec la foule dans la maison de Dieu. » La trahison de Ahithophel en annonçait une autre, celle de Jésus par Judas, pourtant l'un des 12 apôtres. Depuis qu'il a paru, Jésus a toujours été une cause de division dans les familles, une situation que j'ai vécue et que le Seigneur avait prédite. Je lis ses paroles. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. » Jésus a trouvé chez Michée le tableau d'une société corrompue dont le jugement est proche. Il a repris les paroles du prophète pour décrire l'effet paradoxal que produira sa mission dans toute société humaine qui rejette la vérité de Dieu. Et en effet, Jésus a toujours été un sujet de controverse et il le restera jusqu'à la fin des temps. Alors, pendant la grande tribulation, ces paroles de mise en garde trouveront un nouveau retentissement car elles décriront l'expérience des croyants qui seront persécutés et dénoncés aux autorités par leurs intimes. L'apôtre Paul aussi parle de la fin des temps comme une période où le mal prévaudra jusque dans l'intimité de la famille. Il écrit « Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. » Je continue le texte de Michée. « Quant à moi, je me tourne vers l'Éternel. » Je m'attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m'entendra. » Verset 7. Le prophète parle ici au nom de l'Israël idéal, celui qui est resté fidèle à l'Éternel. Ésaïe, contemporain de Michée, exprime la même idée quand il écrit « Moi, je m'attends à l'Éternel qui se détourne du peuple de Jacob. Je me confie en lui, car le libérateur va venir pour Sion. » Pour ceux qui en Jacob renonceront à leur révolte, l'Éternel le déclare. Bien que l'amour et la confiance réciproque aient disparu parmi le peuple et que le jour du jugement est à la porte, les Israélites pieux gardent confiance en leur Dieu. La situation décrite par Michée se reproduira à la fin des temps et en particulier pendant la deuxième partie des 7 ans de tribulation qui sera caractérisé par d'intenses persécutions contre les Juifs et contre les croyants et par des jugements de Dieu contre le monde. Mais ceux dont la foi est véritable tiendront ferme. À ce sujet, Jésus a dit « Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Quand ces événements commenceront à se produire, « levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. » Je continue le texte de Michée. « Tu n'as pas lieu de te réjouir en te moquant de moi, ô toi, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis enfermé au milieu des ténèbres, l'Éternel est pour moi une lumière. » Verset 8. Ici, le prophète prête sa voix à Jérusalem personnifiée, qui se dit « enfermé au milieu des ténèbres », ce qui est une référence à l'exil. Dans ce verset, les deux suivants, les mots « me »,« moi », »,« mon », »,« je » se trouvent 15 fois dans le texte. Tout au long du livre, Michée annonce que Dieu utilisera des puissances militaires païennes comme bâton pour punir son peuple récalcitrant. Les ennemis de Juda sont soit les Assyriens, soit les Babyloniens. Ici, il s'agit plutôt de ces derniers. Cependant, Michée exprime sa confiance dans le fait qu'éventuellement, l'Éternel va inverser la tragédie qui frappera Juda. Même si la nation sera anéantie et son territoire conquis, ses ennemis auraient tort de se réjouir parce que l'Éternel est toujours la lumière de son peuple. Or, dans les pays orientaux, le contraste entre le jour et la nuit est plus marqué que sous nos tropiques. Cela signifie que lorsque les ténèbres du jugement seront passées, la pleine lumière de Dieu éclairera à nouveau le peuple de Juda d'une lumière brillante. Pour lui, se réalisera les paroles prophétiques du roi David qui a écrit « Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer ? Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. » La prophétie de Michée s'adresse à Juda qui est revenu de l'exil babylonien alors qu'Israël Nord, en tant que nation, a disparu dans l'empire assyrien à tout jamais. À son sujet, le prophète Amos écrit « Elle est tombée et ne se relèvera plus, la communauté d'Israël. Elle est étendue sur le sol et nul ne la relève. » Plusieurs personnes à qui j'expliquais la nécessité d'accepter Jésus comme sauveur m'ont répondu d'un ton désinvolte et le sourire en coin « On verra bien quand on sera de l'autre côté. » Sinistre négligence. Le problème est que c'est déjà tout vu ici-bas, car une fois dans l'au-delà, les dés sont jetés. C'est ici et maintenant qu'il faut accepter Jésus, car après, c'est trop tard.